Chapitre 19. C'est lundi et la bibliothèque est fermée. Déjà calme en temps ordinaire, les jours de fermeture, on dirait un endroit oublié du temps. Ou un endroit qui retient son souffle pour ne pas être découvert. Lorsqu'on passe la porte où est accroché un panneau « Privé, entrée interdite », et qu'on avance dans le couloir derrière la salle de lecture, on tombe sur un coin cuisine réservé aux employés, avec un évier et un four à micro-ondes. Au fond du couloir se trouve la porte de la chambre des invités. Elle est équipée d'une salle de bain et de placards. Il y a un lit pour une personne et une table de chevet sur laquelle sont posées une lampe et un réveil. J'aperçois aussi un bureau avec une lampe à pied. Des fauteuils anciens revêtus de tissu blanc, une malle pour ranger les vêtements. Il y a aussi un petit frigidaire surmonté d'un placard à vaisselle. Dans la salle de bain se trouvent un séchoir, des serviettes, du savon et du shampoing. Cette chambre contient tout ce qu'il faut pour passer un séjour confortable. Par la fenêtre, orientée à l'ouest, on aperçoit les arbres du jardin. Le crépuscule est proche. Le soleil qui commence à décliner projette ses derniers rayons derrière les cyprès.
Quand je n'ai pas envie de rentrer chez moi, il m'arrive de rester dormir ici. C'est rare, mais personne d'autre n'utilise cette pièce. À ma connaissance, Mademoiselle Saeki n'y entre jamais. Tu vois, cela ne dérange vraiment personne que tu t'y installes.
Je pose mon sac à dos par terre, jette un regard circulaire sur la pièce.
Le lit est fait. Il y a ce qu'il faut dans le frigo. Du lait, des fruits, des légumes, du beurre, du jambon et du fromage. Ce sera difficile de cuisiner des plats compliqués ici, mais tu pourras te préparer des sandwichs ou de la salade. Si tu as envie d'un vrai repas, tu peux toujours te le faire livrer ou aller manger à l'extérieur. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié de te dire ?
Où travaille Mademoiselle Saeki d'habitude ?
Oshima désigne le plafond.
Tu as vu le bureau au moment de la visite guidée, n'est-ce pas ? Elle travaille toujours là-bas. Quand je m'absente, elle descend et me remplace à la réception. Mais quand elle n'a rien à faire au rez-de-chaussée, elle reste en haut.
Je hoche la tête.
Je viendrai te chercher un peu avant 10h demain matin pour t'expliquer en gros l'organisation du travail. Repose-toi tranquillement d'ici là.
Merci pour tout, dis-je.
My pleasure, répondit-il en anglais.
Après son départ, je dépose le peu de vêtements que j'ai dans la malle. Suspends les chemises et la veste sur des cintres, pose le cahier et les crayons sur le bureau, mets les affaires de toilette dans la salle de bain, mon sac à dos vide dans le placard. La chambre est dépourvue de toute décoration, à l'exception d'une petite peinture à huile accrochée au mur. Ce tableau plein de réalisme représente un jeune adolescent au bord de la mer. C'est une œuvre de qualité. Je me demande si elle a été réalisée par un peintre connu. Le garçon doit avoir une douzaine d'années. Protégé du soleil par un chapeau blanc, il est assis sur une petite chaise longue. Un coude sur l'accoudoir, il a posé sa joue sur sa main. Son expression est légèrement mélancolique et fière en même temps. Un berger allemand noir est couché à ses pieds. Derrière lui, on aperçoit la mer. Plusieurs personnes s'y baignent, mais elles sont peintes en tout petit. On ne distingue pas leur visage. On voit aussi une petite île au large. Dans le ciel d'été flottent quelques nuages en forme de point. Assis devant le bureau, je contemple ce tableau. Au bout d'un moment, il me semble entendre le bruit des vagues et sentir l'odeur de la marée. L'adolescent représenté est peut-être le garçon qui a vécu jadis ici. Celui que Mademoiselle Saeki a aimé et qui est mort pour rien à 20 ans, victime des rivalités entre mouvements estudiantins. Je n'ai aucun moyen de le vérifier, mais j'en ai la vague intuition. Je suis sûr que le bord de mer que représente le tableau existe près d'ici. Si c'est le cas, on le voit tel qu'il était il y a une trentaine d'années. Un temps qui me semble presque une éternité. J'essaie de m'imaginer dans 30 ans. Autant essayer d'imaginer le bout du monde.
Le lendemain matin, Oshima-san vient me chercher et me montre ce qu'il y a à faire avant l'ouverture de la bibliothèque. Il faut déverrouiller les fenêtres, les ouvrir pour aérer, passer rapidement l'aspirateur, essuyer les bureaux, changer l'eau des fleurs, allumer la lumière, de temps à autre arroser le jardin, et enfin, l'heure venue, ouvrir la porte d'entrée. Lors de la fermeture, on procède à peu près de la même façon, mais en sens inverse. On ferme les fenêtres, on essuie de nouveau les bureaux avec un chiffon, on éteint les lumières et on ferme la porte à clé.
Ce serait très étonnant qu'on nous vole quoi que ce soit. On pourrait ne pas être aussi prudent, dit Oshima. Mais ni Mademoiselle Saiki ni moi n'aimons le laisser aller. Nous nous acquittons de nos tâches le plus sérieusement possible. J'en attends autant de toi.
J'acquiesce. Ensuite, il m'explique ce qu'il faut faire à la réception, comment aider les visiteurs qui viennent consulter des livres.
Reste près de moi et observe comment je m'y prends. Ce n'est pas difficile. Si par hasard on te demande quelque chose de trop compliqué, tu n'as qu'à appeler Mademoiselle Saiki. Elle viendra s'en occuper.
Mademoiselle Saiki arrive un peu avant 11h. Le moteur de sa Volkswagen fait un bruit facilement reconnaissable. Elle gare la voiture au parking, entre par la porte de derrière, nous salue, Oshima et moi.
« Bonjour, » dit-elle.
« Bonjour, » répondons-nous en chœur, et la conversation s'arrête là.
Mademoiselle Saiki est vêtue d'une robe bleu marine à manches courtes. Elle a un sac à l'épaule et une veste de coton posée sur son bras. Elle ne porte presque pas de bijoux et est très peu maquillée. Mais quelque chose en elle éblouit. Elle me regarde, semble avoir envie de dire quelque chose, mais se ravise. Elle m'adresse un petit sourire, puis monte l'escalier pour se rendre au premier étage.
« Ne t'inquiète pas, » dit Oshima. « Ta présence ne lui pose aucun problème. Elle est tout à fait d'accord. C'est une personne qui ne s'encombre pas de propos inutiles, c'est tout. »
À 11h pile, Oshima ouvre la bibliothèque. Aucun visiteur ne s'étant encore présenté, il en profite pour m'expliquer comment chercher un ouvrage sur l'ordinateur. C'est un IBM, et j'ai déjà l'habitude de ce genre de machine fréquemment utilisée dans les bibliothèques. Ensuite, Oshima m'apprend à classer les cartes de référence. Chaque jour, quelques nouveautés arrivent au courrier, et il faut les noter sur les cartes. Ce sera l'une de mes tâches. À 11h30, deux femmes arrivent ensemble. Toutes deux portent un jean de la même couleur et de la même forme. L'une est petite, a les cheveux courts d'une nageuse de compétition. L'autre a noué les siens en natte. Toutes deux ont des tennis. L'une des Nike, l'autre des Asics. La plus grande doit avoir la quarantaine, la petite la trentaine. La grande porte une chemise à carreaux et des lunettes, la petite un chemisier blanc. Elles ont un petit sac à dos et l'air sombre comme un ciel nuageux. Elles parlent à peine. Elles laissent leur sac à Oshima à l'entrée et s'emparent avec une évidente mauvaise humeur de cahiers et de crayons mis à la disposition du public. Elles inspectent les rayons les uns après les autres, consultent frénétiquement les cartes de référence. De temps en temps, elles prennent des notes dans leurs cahiers. Elles ne lisent aucun livre, ne s'asseyent pas. On dirait des fonctionnaires des impôts inspectant des stocks plutôt que des lectrices d'une bibliothèque. Ni Oshima ni moi n'arrivons à deviner qui elles sont, ni ce qu'elles font ici. Il me fait un signe des yeux, hausse les épaules. Je n'ai pas un très bon pressentiment, et c'est un euphémisme. À l'heure du déjeuner, je reste à la réception pendant qu'Oshima va s'installer dans le jardin pour manger.
« J'ai des questions à vous poser, » dit l'une des deux femmes, la grande, en s'approchant de moi.
Son ton sec et ferme me fait penser à un vieux pain oublié au fond d'un placard.
« De quoi s'agit-il ? »
Elle fronce les sourcils, me dévisage en penchant la tête comme si elle regardait un tableau accroché de travers.
« Dites, vous ne seriez pas lycéen ?»«
Oui, je suis stagiaire.
Pourriez-vous appeler quelqu'un de plus compétent ?»
Je vais chercher Oshima dans le jardin. Il finit tranquillement ses dernières bouchées, les fait descendre avec une gorgée de café, époussette les miettes sur ses genoux, se lève et me suit.
« En quoi puis-je vous aider ? » demande-t-il aimablement aux deux femmes.
Nous faisons partie d'une association chargée d'étudier les aménagements des établissements culturels publics, du point de vue des femmes. Nous avons organisé une tournée à travers le Japon pour examiner tous les équipements dans le but de publier un rapport. De nombreuses femmes participent à cette enquête. Nous avons été chargés de visiter 7 bibliothèques. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous me donner le nom de cette organisation ? Demande Oshima. La femme sort une carte de visite, la lui tend. Oshima l'examine attentivement, la pose sur le comptoir, lève la tête, adresse à son interlocutrice un sourire éclatant, un sourire de première qualité qui ferait rougir n'importe quelle femme normalement constituée. Mais celle-ci ne lève même pas un sourcil et reprend. « J'irai droit au but. Nous avons relevé un certain nombre de problèmes dans cette bibliothèque. »« Du point de vue des femmes ?» demande Oshima. « Du point de vue des femmes, absolument !» dit la visiteuse qui ajoute après avoir tout sauté. « J'aimerais en discuter avec l'administration, si cela ne vous dérange pas. » « Nous ne sommes pas assez importants pour avoir une administration officielle, mais je serais heureux de vous répondre, si cela vous convient. » « Premier point, vous ne disposez pas de toilettes pour femmes. Les commodités sont communes aux deux sexes, c'est exact ?»« Absolument. Il n'y a pas de toilettes réservées aux femmes dans cette bibliothèque. » « En principe, même pour les établissements privés, les toilettes hommes et femmes doivent être séparées. » « En principe, » répète Oshima. « Oui, des toilettes communes sont la porte ouverte à toutes sortes de harcèlement. D'après notre enquête, la plupart des femmes répugnent à utiliser les WC communs. Votre établissement est clairement négligent à l'égard de ses usagers de sexe féminin. »« Négligent, » répète Oshima. On dirait qu'il vient d'avaler quelque chose d'amer. Visiblement, il n'aime pas la sonorité de ce mot. C'est de l'omission intentionnelle. De l'omission intentionnelle ? Cette fois, Oshima médite sur cette formule maladroite. Comme vous pouvez le constater par vous-même, cette bibliothèque est toute petite, dit-il. Et nous n'avons pas assez de place pour installer des WC séparés. Ce serait préférable, j'en conviens. Mais jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune plainte de la part de nos lectrices. Heureusement, ou malheureusement, notre bibliothèque est peu fréquentée. Si vous voulez examiner en profondeur ce problème de toilettes communes, je vous suggérerais de vous rendre à Seattle, au siège de la société Boeing, et de leur poser la question à propos des commodités de leurs avions. Un jumbo jet est bien plus grand, et il accueille beaucoup plus de monde que notre établissement. Pourtant, que je sache, il ne dispose pas de WC séparés. La grande femme fixe Oshima en fronçant sévèrement les sourcils. Ses lunettes semblent se hausser sur ses pommettes proéminentes. « Nous ne sommes pas en train de procéder à une enquête sur les transports. Pourquoi nous parlez-vous des jumbo jets ?»« Parce que, qu'il s'agisse d'avions ou de bibliothèques, l'absence de toilettes séparées engendre le même type de désagrément. N'êtes-vous pas d'accord sur le principe ?»«
Nous inspectons les aménagements publics un par un. Je ne suis pas venu vous parler de principe. »
Oshima a toujours un aimable sourire aux lèvres.
« Ah bon ?» Je croyais que nous parlions justement de ce qui se fait en principe.
La femme se rend compte qu'elle a commis une erreur quelque part. Elle rougit un peu, mais ça n'est pas dû au sex-appeal d'Oshima. Elle essaie de redresser la barre.
En tout cas, les Boeing n'ont rien à voir là-dedans. Ne cherchez pas à détourner la conversation.
Entendu. Ne parlons plus de transport aérien, dit Oshima. Soyons plus terre à terre.
La femme le foudroie du regard. Elle prend une profonde inspiration et reprend.
J'aimerais soulever un autre point. Nous avons remarqué que les auteurs hommes et femmes sont classés séparément chez vous.
En effet, ce catalogue a été créé par nos prédécesseurs qui classaient séparément les écrivains hommes et femmes.
Nous avons le projet de refaire les index, mais nous n'en avons pas eu le temps jusqu'ici.
Ce n'est pas cela que nous critiquons, corrige-t-elle.
Oshima penche la tête en signe d'incompréhension.
Dans tous les classements de cet établissement, les auteurs hommes viennent avant les auteurs femmes, dit-elle. Cette disposition va à l'encontre de l'égalité des sexes. C'est une injustice flagrante.
Oshima reprend la carte de visite, relit le nom de la femme
puis repose la carte sur le comptoir.
« Madame Soga, dit-il, quand on faisait l'appel à l'école, vous étiez sans doute avant Mademoiselle Tanaka et après Mademoiselle Sekine, selon l'alphabet. Avez-vous fait une réclamation pour demander à ce que cet ordre soit inversé? Est-ce que la lettre G se fâche sous prétexte qu'elle est après le F? Est-ce que la page 68 d'un livre fait la révolution pour la seule raison qu'elle est après la page 67?
Ce n'est pas la même chose, dit-elle en élevant la voix. Vous cherchez à détourner la conversation depuis tout à l'heure.
En l'entendant, sa compagne qui prenait des notes un peu plus loin arrive à grands pas.
Je cherche à détourner la conversation, répéta Oshima comme s'il voulait souligner ses paroles. Oseriez-vous prétendre le contraire?
Red Herring, dit Oshima.
La femme nommée Soga reste bouche bée.
C'est une expression anglaise. Elle désigne un sujet intéressant, mais qui vous entraîne un peu loin de la proposition principale. Une digression, en somme. Red Herring signifie hareng rouge. J'ignore d'où vient cette expression. Excusez mon manque de culture.
Qu'il s'agisse de hareng ou de maquereau, vous détournez la conversation.
Pour être précis, j'inverse l'analogie, dit Oshima. Selon Aristote, il s'agit de l'une des techniques les plus utilisées en rhétorique. Ces astuces intellectuelles faisaient la joie des Athéniens. Il est regrettable cependant que le gouvernement de l'époque n'ait pas jugé bon d'inclure les femmes dans la définition des citoyens.
« Vous vous moquez de nous ?»
Oshima secoue la tête.
« Pas du tout. Ce que je veux dire, en fait, c'est que vous pourriez trouver, pour vérifier si les droits légitimes des femmes sont respectés dans ce pays, des moyens plus efficaces que de venir fouiner dans une petite bibliothèque de province, critiquer l'aspect des toilettes et chercher les défauts du catalogue. Ici, nous faisons de notre mieux pour rendre cette modeste bibliothèque utile à la communauté. Nous réunissons des ouvrages de valeur que nous mettons à la disposition des amateurs. Nous faisons tout notre possible pour offrir à nos visiteurs un service aimable et de qualité. Vous l'ignorez peut-être, mais notre collection d'études sur les poèmes du début du XXe siècle jouit d'une grande renommée dans tout le pays. Bien sûr, il y a des imperfections, nous avons nos limites, mais nous faisons de notre mieux, même si nous ne sommes pas à la hauteur. Au lieu de vous focaliser sur ce que nous n'avons pas su faire, regardez plutôt ce que nous avons réussi à accomplir en réalité. C'est ce qu'on appelle le fair play en anglais.